On reparle à nouveau, et je vous le dis, on va en reparler beaucoup, souvent et longtemps, de la Jarnéguane et des centres d'alphabétisation populaire. Ce sont des centres où l'on forme des problèmes, des problèmes, pas des problèmes, mais des personnes qui vivent en situation d'analphabétisme. Et avec nous, Guillaume et Amélie, deux permanents pour des formateurs, c'est ça?
Oui, formateurs, animateurs, animatrices, parce que la plupart sont des femmes qui travaillent dans le milieu, évidemment.
Peut-être parce qu'on voulait savoir un peu plus. L'analphabétisme, c'est un grand concept que les gens maîtrisent plus ou moins bien. C'est quoi au Québec aujourd'hui être considéré comme un analphabète? Guillaume?
Oui, alors il y a quand même différentes choses à prendre en compte. On entend souvent des chiffres pour parler de l'analphabétisme. Il faut faire attention parce que les chiffres, il y a différentes statistiques, mais elles veulent toutes dire quelque chose de différent. On entend parfois 53% des gens qui seraient analphabètes. Mais faut, en fait, ce qu'on veut dire avec cette statistique-là, c'est quand on parle d'une personne sur deux, si on parle beaucoup des enjeux de compréhension. C'est-à-dire que les personnes vont quand même être capables de lire ou d'écrire. Mais par exemple, si on prend un texte du journal, par exemple, où il y aura environ 500 mots, mais la totalité de ce qu'il y a dans le texte ne va pas être nécessairement assimilée ou bien compris. Donc ça, c'est une première statistique qu'on entend. Mais il y en a aussi une deuxième, que celle-là est peut-être plus juste lorsqu'on parle d'analphabétisme, qui est environ une personne sur cinq au Québec qu'on parle. Amélie peut peut-être un peu plus développer sur cette partie-là, justement.
Bien, en fait, c'est parce que il y a quelques années, ils ont fait une étude au niveau international. Et là, ils ne parlaient pas d'analphabétisme comme tel, mais de niveau de littératie. Donc, ces chiffres-là sont liés à une étude qui parle de niveau de littératie. Donc, ils ont séparé la population en cinq niveaux. Et ils se sont dit, ça prend un niveau 3 pour bien se débrouiller dans la société d'aujourd'hui. Ça veut dire que les gens qui avaient un niveau 3, c'est des gens qui ont des bons emplois, des meilleures conditions de travail, qui réussissent à s'impliquer socialement. C'est des citoyens beaucoup plus
Et au niveau
épanouis.
3, on sait, on peut lire le journal,
Oui, au niveau 2 aussi. Mais c'est là, niveau 1 et 2, ça donne 53% de la population. Quand on dit 53% de la population n'ont pas un niveau optimal de littératie, c'est ça. Des fois, il y a eu des raccourcis, des gens ont dit, il y a 53% de la population qui est analphabète, puis là, tout le monde faisait, mais mon Dieu, comment c'est possible? Parce que je pense aussi que donc c'est le mot analphabétisme dans la tête des gens fait référence à cause du analphabétisme, qui ne sait pas lire et écrire du tout. On pense à une personne qui signerait avec un X, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Mais c'est pour ça que maintenant, je pense, on aime mieux parler de niveau de littératie, surtout lié à cette fameuse étude-là, parce que ça vient moins confondre les gens. Et quand Guillaume dit qu'une personne sur cinq, ça c'est le niveau 1 dans cette fameuse étude-là. Le niveau 1 de littératie, c'est des gens qui ont des grandes difficultés en lecture, en écriture. Donc, c'est des gens qui vont être capables de décoder. Parce que décoder l'alphabet, c'est comme un code. On dit qu'un C puis un A, ça fait K ensemble.
Mais ils vont faire une syllabe à la fois, à la limite un mot,
Ou c'est
mais...
tellement difficile de décoder. Ils vont même des fois être capables de lire la phrase au complet. Mais comme ils sont pas assez habitués dans le décodage, au bout de la phrase, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont lu. Et c'est ça qui arrive. Et ça, c'est des gens plus de niveau 1.Ais on se rend compte que c'est large, là. T'sais. La personne qui serait peut-être au début du niveau 1, peut-être que là, c'est beaucoup plus ardu, puis elle n'est pas capable de lire la phrase au complet. Donc, c'est des grandes catégories, si on veut. Mais c'est quand même inquiétant de se dire que 53% de la population, donc une personne sur deux, la moitié des gens au Québec qui n'ont pas un niveau de littératie optimal pour bien se débrouiller dans la société,
Et
puis que
ces
c'est
gens-là,
une personne sur cinq qui ont des grandes difficultés en
et
lecture,
ces
en
gens-là,
écriture.
on les exclut, on les oublie, on les laisse sur la marge, et ça leur fait presque plaisir parce qu'ils veulent plus se faire remarquer. C'est ce qu'on constate le plus chez les gens en situation d'analphabétisme, c'est les excuses qu'on peut sortir, genre j'ai oublié mes lunettes, c'est un classique, là.
Oui, donc les personnes qui se retrouvent avec des grandes difficultés,
Pour ne
là.
pas exister, on trouve toutes sortes de trucs.
Ah oui, tout à fait, parce que ça, depuis toujours, c'est comme la honte. Moi, ben, c'est toujours une anecdote que je raconte, mais je la trouve intéressante. Je sais pas si vous avez vu le film de Louis Cyr, où c'est l'homme le plus fort du monde, et qu'est-ce qu'il veut pas avouer? c'est son analphabétisme. Puis c'est, v'là 100 ans de ça. Alors je me dis, si l'homme le plus fort au monde, v'là 100 ans, avait lui-même honte d'être analphabète, imaginez aujourd'hui, en 2019.
Mm-hmm.
Alors que ces personnes-là sont des personnes tellement débrouillardes, d'où le nom. Ah, je savais,
la
François, t'es content que je t'explique. D'où vient le nom, la jarniguane?
Mm-hmm.
Avoir de la jarniguane, ça veut dire avoir de la débrouillardise. Donc, c'est des gens qui ont été tellement débrouillards toute leur vie, qui ont réussi malgré tout à travailler, à acheter des maisons. Mais ça, c'est la réalité de certaines personnes, alors qu'il y en a d'autres qui ont été très, très exclus, qui sont retrouvés sur l'aide sociale pendant des années, tout ça. Malgré tout, ils se débrouillent pour sortir de chez eux, faire du bénévolat et tout ça. Alors,
mais
c'est très débrouillard.
C'est quand même gaspiller du monde que de les laisser comme ça sur la marge et de ne pas les intégrer. Guillaume, je sens que vous êtes tous les deux très, très fiers des gens qui fréquentent le centre d'alphabétisation. Ça se sent quand on vous parle. Peux-tu m'en parler un peu?
Ben oui, c'est sûr que nous, on est fiers parce que, justement, tout le parcours de vie que les gens ont eu, juste le fait qu'ils continuent de venir au centre, c'est une énorme victoire dans le sens que, ils nous font confiance à nous, déjà en partant, puis ça, c'est quand même quelque chose de considérable. Puis aussi, le fait de venir à la Jarniguane, mais ils viennent pas juste apprendre à lire puis écrire, c'est justement un outil qu'ils utilisent après ça pour faire d'autres choses dans la vie, comme... Par exemple, moi, il y a quelque chose qui va toujours me fasciner. Tu sais, maintenant, chaque année, il y a des participants qui vont à l'Université de Montréal, dans la faculté de médecine, pour parler d'enjeux de littératie à des personnes qui vont devenir médecins plus tard. Mm-hmm. Puis ça, c'est quand même assez impressionnant. Fait que c'est toutes des choses comme ça que les participants et les participantes vont faire, qui, en travaillant, en se mobilisant, ben, ils ont des victoires comme ça, puis ils continuent de sensibiliser la population.
Ça m'amène à ma dernière question. On connaît probablement tous quelqu'un, et peut-être qu'on le sait pas, qui vit en situation d'analphabétisme. Qu'est-ce qu'on leur dirait? Comment on aborde quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire? Parce que je suis conscient que ces personnes-là, on leur a fait honte. Souvent, on les a mis en situation d'échec toute leur vie. Comment on fait pour les aborder et qu'est-ce qu'on leur dit?
Je pense que ça prend quand même beaucoup de doigté, de la délicatesse, justement parce que c'est des gens qui se retrouvent aujourd'hui des fois sur leur défensive parce qu'ils ont été rejetés toute leur vie, comme tu disais si bien. Mais je pense que ça se fait d'aborder quelqu'un, de dire « Écoute, montrer qu'on n'a pas de jugement par rapport à ça, souligner leur force. Hey, t'as été bon pour faire ça, mais hein, c'est difficile pour toi lire, je remarque ça, mais t'sais, faire sentir que c'est pas de sa faute à lui parce qu'ils ont souvent intégré la culpabilité, le doigt qui est pointé sur eux, c'est toujours ben, « c'est de ta faute à toi, t'as pas été capable d'apprendre ». Alors, je pense que si on réussit à transmettre ça à une personne qui est dans notre entourage, le fait qu'on le juge pas et qu'il existe des ressources, qui est pas tout seul.
Mm-hmm.
Cette personne-là n'est pas tout seul. On le disait tout à l'heure, c'est une personne sur cinq au Québec. C'est énorme.
Alors, il y aurait peut-être lieu que tous, on regarde un peu par-dessus notre épaule et autour de nous. Il est probable qu'on pourrait trouver quelqu'un qu'on pourrait respecter et reconnaître.
Ah oui.
Amélie, Guillaume, merci d'avoir été avec nous.
Merci François.